Vous écoutez
RMC.
RMC jusqu'à 18h.
Intégral Tour.
Christophe Cessieux.
Bonjour à tous et bienvenue sur la route du Tour de France. Non, le Tour n'est pas encore terminé. Non, nous ne sommes pas encore à Paris. Nous sommes dans le sud-ouest aujourd'hui, même si la victoire finale ne laisse plus beaucoup de suspense après le nouveau numéro extraordinaire réalisé hier par Jonas Vingegaard, vainqueur d'étape à Otakam et qui a encore augmenté son avance au classement général. Vingegaard est en jaune, Pogacar en blanc et a priori, ça restera comme ça jusqu'à l'arrivée à Paris dans 48 heures maintenant. Heureusement, la course continue avec notamment aujourd'hui une étape sans doute réservée aux sprinteurs, même si une échappée a déjà pris quelques secondes d'avance sur le reste du peloton. Le Tour qui a une nouvelle fois été interrompu il y a quelques instants, interruption en bref due à une nouvelle manifestation. C'est la troisième fois depuis le départ à Copenhague il y a un peu plus de 3 semaines maintenant que le Tour est arrêté. On va donc vivre cette 19e étape avec toute l'équipe de l'Intégral Tour. Cyril Guimard, bien évidemment, à qui je vais quand même donner une petite amende de 200 francs suisses pour ne pas avoir signé l'engagement ce matin. Un petit retard d'un quart d'heure. C'est 200 francs suisses, donc il va falloir mettre dans le cochon, hein, monsieur Guimard.
Dans le cochon, non.
Ou dans le maïs.
Oui, mais enfin, un petit quart d'heure. Un petit quart d'heure, c'est ce que tu as perdu hier dans la descente de Otakam.
C'était un quart d'heure.
J'ai perdu 2 heures hier soir.
Un quart d'heure sous la pluie en plus à Lourdes ce matin, à vous attendre
il n'y avait pas de pluie.
Si, il pleuvait.
C'est-à-dire que quand ils sont partis, il pleuvait.
C'était de l'eau bénite, mais il y avait quand même de la pluie.
Bon, il est là en tout cas, c'est le plus important. Jérôme Coppel est là lui aussi. Salut. Bon pied, bon oeil. Il a oublié d'appuyer sur son bouton.
Il n'allume pas son micro.
Sabotage.
Non, mais c'est pas un souci. Vu ce qu'il raconte, tout d'intéressant, de toute façon, on peut s'en passer pour cet après-midi.
C'est bon, c'est revenu. Ouais, bonjour à tous.
Elle est obligée de s'occuper de la technique en plus.
C'est Cyril qui s'en occupe, c'est pour vous dire, on est mal pour terminer ce tour.
Ça va, Jérôme ?
Ça va, et vous ?
Bah oui.
S'est pas vu hier soir, vous avez passé une bonne soirée.
Nous sommes allés voir nos copains Jean-Pierre, Brigitte et Ursula, à qui on fait un grand bonjour. Les trois vallées à Lugagnan, si vous arrivez dans le coin, au pied d'Otakam quasiment. C'est un endroit mythique.
Très beau musée.
Un très beau musée du Tour de France. Est-ce qu'il y avait un maillot de Jérôme Coppel là-bas, non ?
Non, mais tu sais, j'ai pas eu de maillot distinctif, mais il y a une petite fiche de signature que Cyril a pas pu faire ce matin puisqu'il était en retard au départ,
oui,
avec
c'est
mon
vrai.
Nom et ma signature. Tu l'as même pas vu, je suis sûr.
Exactement.
Tu t'en fiches.
Non, j'ai raté ça.
Si.
Hein, Jean-Pierre, évidemment que tu connais bien depuis des années, auquel on rend visite tous les ans. C'est un endroit mythique. C'est un endroit où tu t'es arrêté avec tes équipes il y a quelques années, Cyril. Enfin, il y a quelques années, c'était au siècle dernier quand même. Hein.
Oui, c'était pas ce siècle-ci, c'était le siècle dernier. Et depuis, eh bien, on est resté fidèle à Jean-Pierre et à son établissement
et à son foie gras aussi. Il faut bien le rappeler.
Oui, d'ailleurs, je pense que c'est le foie gras qui a provoqué le retard ce matin.
Je sais pas.
Il n'y a pas que le foie gras quand même, Monsieur Guimard. J'ai quelques vidéos que je ne peux pas dévoiler, mais franchement.
Ouais, non. En disant après, on fait du chantage, ça va quoi.
Oui, c'est du show.
Tu les auras tes deux enfants.
L'après-midi va être très longue.
Et on doit saluer aussi nos camarades qui étaient à la table de derrière de l'Aperon.
Ils sont dans la voiture là, ils rentrent à la maison.
De la Primo, voilà, c'est comme ça que ça s'appelle. On les salue. Ils suivaient tout le tour là, attentivement. Ils étaient heureux de passer une partie de la soirée avec Cyril.
Et ils ont pu se rendre compte de notre calvaire tous les soirs lorsque Cyril attaque sur ses souvenirs du bataillon de Joinville, par exemple, et que ça dure pendant 3 heures. Mais tu as bien tenu la roue quand même. Tu as été magnifique.
C'était très intéressant, comme d'habitude avec Cyril. On en apprend tous les soirs.
Surtout le soir.
Oui, c'est vrai que beaucoup plus bavard à partir de 20h après quelques petites poissons supplémentaires.
Et puis avant de faire un point sur ce qui se passe sur la course, ce qui se passe des choses, extraordinaire.
On est là pour ça normalement.
On a aussi rencontré sur la route du retour en descendant d'Otakam nos amis de la Peña, très sympathique bande d'allumés, on peut le dire.
La Peña Jouir, elle s'appelle.
Je ne connaissais pas le nom de famille.
C'est ça. Je fais des photos avec eux, mais je ne connais pas leur nom de famille.
Toi aussi, tu tu as fait des photos avec eux. Et on les remercie parce qu'ils nous ont fait quelques livraisons dans la descente. Et c'est vraiment une équipe super, super
sympa. Ouais. Ils sont là depuis des années, toujours lors d'une étape dans les Pyrénées. Ils sont déguisés, ils mettent le feu pendant 3-4 jours dans l'école. Et hier, ils étaient en pleine forme. D'ailleurs, ils ont préféré rester hier soir là-haut plutôt que de prendre la voiture pour rentrer à la maison.
Ils étaient arrivés lundi.
Lundi. Mais ils ont vidé toutes les caisses. Hein, ça, tout va bien. Ouais, de ce côté-là. Voilà, on leur fait un coucou. Ils sont sans doute dans la voiture en train de rentrer. Arnaud Souk et Marco sont aussi là, comme tous les jours, sur la moto. Bonjour les gars, comment ça va ?
Salut les amis, salut à toutes et à tous. Bien écoute, ça va très très bien sur la route du Tour. Petit arrêt à Auch il y a quelques minutes. Et oui, parce que moi aussi je vais faire ma pub. Mes parents étaient là, Albert et Marie-Claude.
On a fait le petit bisou. Salut Albert et Marie-Claude.
Aux parents, donc voilà.
On les salue, papa et maman Souk.
Eh ben oui, eh ben ils vont être contents, voilà. Et moins rigolo, mais un hommage aussi appuyé à Nicolas Portal. Nicolas Portal, l'ancien directeur sportif de l'équipe Sky, devenu Ineos, décédé en 2020, en début d'année 2020, et qui est originaire du Gers. Et son souvenir, évidemment, lui qui avait été inhumé à Auch, en présence notamment d'Egan Bernal, ancien vainqueur du Tour de France, son souvenir demeure ici, puisque voilà, on a vu beaucoup de pancartes en l'honneur de Nicolas Portal qui a été emporté alors qu'il était encore très jeune, et évidemment on salue toute sa famille et tous ses amis qui nous écoutent.
Et il nous manque évidemment sur la route du Tour, parce que c'était un garçon très sympa en plus, qui donnait des interviews toujours très intéressantes à l'issue des étapes. C'est lui qui a construit notamment les succès de Chris Froome, de Geraint Thomas. Il l'appelait Jay avec son petit accent du sud-ouest. C'était un bonheur, on pense très fort à lui. Et puis il y a aussi évidemment d'autres connaissances sur la route du Tour aujourd'hui, puisqu'on est quand même sur les terres du rugby, et notamment sur les terres du meilleur joueur au monde, un certain Antoine Dupont, qui était déjà là hier, Arnaud, et qui est dans la voiture, je crois, de Christian Prudhomme aujourd'hui. D'ailleurs, l'étape s'était lancée de son village natal, Castelnau-Magnac.
C'est incroyable ce qui s'est passé ce matin. Nous étions dans un village des Hautes-Pyrénées frontalier avec le Gers, un village de 800 habitants. J'en ai des frissons avec d'en parler, parce que j'ai discuté avec Clément Dupont, donc le frère d'Antoine Dupont. La famille est originaire évidemment de Castelnau-Magnac, qui me disait, donc le frère d'Antoine Dupont, on a ce soir un banquet avec 1000 personnes dans un village de 800 habitants, parce qu'on a réussi à fédérer tout autour d'Antoine Dupont, qui est le joueur du Stade Toulousain, le meilleur joueur de rugby de la planète. C'est ainsi en tout cas qu'il a été sacré par les instances de l'IRB, la Fédération Internationale de Rugby, récemment. Et donc oui, il y avait un monde fou. On a eu droit à des petits chants, notamment avec Julien Richard, qui vous fera écouter ça tout à l'heure, de gens du cru, des agriculteurs qui avaient mis leur petit polo avec la croix occitane, avec un petit mot Adichats, voilà, qui est un mot d'occitan qui veut dire voilà, adieu, bonjour, au revoir, comme vous voulez, vous l'utilisez à toutes les sauces. C'est un petit peu le ciao occitan, et voilà, c'était vraiment très très émouvant. Et Antoine Dupont, on a pu vérifier sa cote de popularité absolument monumentale, mais Julien Richard vous fera écouter ça tout à l'heure.
Exactement, ce sera la musette de Julien qui évoquera Antoine Dupont. Il n'y a pas que Antoine Dupont, je crois que Fabien Galthié aussi était annoncé, je ne sais pas s'il était bien là ce matin.
Et ouais. Anthony Gélanche aussi, et Bernard Laporte, de la Fédération tout française de rugby. Anthony Gélanche, le grand pote, et d'ailleurs ils ont été, ils sont originaires du Gers, enfin ils ont été formés au rugby dans le Gers. C'est les grands copains, Antoine Dupont et Anthony Gélonge qui a rejoint récemment Antoine Dupont au Stade Toulousain.
Et on a une petite pensée pour un garçon qui devait être là aujourd'hui, mais qui a été victime malheureusement des incendies à côté de la dune du Pila. C'est Denis Charvet, notre copain Denis, qui heureusement n'a pas vu sa maison brûler, mais il s'est passé tout près. Il a été évacué, il a pu réintégrer ses pénates hier soir. Il devait être présent aujourd'hui aux côtés de Bernard, d'Antoine Dupont, mais il est resté à la maison. Il est en train d'enlever toute la poussière et toutes les cendres dues à l'incendie.
Et dernière petite précision avant d'en venir à la course, parce qu'il se passe pas grand chose, mais il faudra qu'on en parle quand même. Ça fait déjà 10 minutes qu'on est à l'antenne.
Il y a une course de vélo.
Juste pour préciser, c'est pas sûr qu'on ait la musette de Julien Richard quand même.
Pourquoi?
C'est pas certain. Je crois qu'ils ont des petits soucis à l'allumage.
Ah ben alors, qu'est-ce qui s'est passé?
Ils ont pas rechargé la batterie.
Ah, ils sont pas rechargés.
Tu parles de la voiture là ou des bonhommes?
Ah, moi je parle de alors je sais pas s'ils ont rechargé la batterie après le après encore le petit diplomatico qu'on a dégusté hier à Lourdes, brasserie Le Versailles qu'on salue d'ailleurs.
Oui,
écoute, on s'est pas embêté nous non plus.
C'est plus le tour de France, c'est le tour des copains aujourd'hui, hein.
Tous les rats de France, voilà. mais en tout cas, je crois savoir qu'il y a eu quelques câbles qui ont été nécessaires avec une voiture amie pour refaire partir le moteur.
Très bien. Voilà. Donc on aura la musette alors.
C'est du moment qu'ils ont pu repartir. Bon, de toute façon, vu ce qu'il faut, on n'était pas non plus. Non, je rigole. Évidemment, ils font un travail énorme et comme ils les écoutent, ils vont m'insulter tout à l'heure quand ils vont arriver. Alors, il est déjà 14h14. On va peut-être s'intéresser à la course. Pierre-Yves, avec le premier top course, on est à 136 km de l'arrivée. C'est parti.
136 km à parcourir sur les routes des Hautes-Pyrénées, un tout petit peu aujourd'hui, juste pour quitter ce joli village de Castelnau-Magnoac. Le Gers désormais, le Tarn-et-Garonne, le Lot sont au programme du jour en direction de Cahors. Et trois garçons sont en visite aujourd'hui à l'avant, mais pas très loin du peloton. Une petite minute seulement pour cinq hommes. Niels Polit de l'équipe Bora Hansgrohe, Mickaël Honoré de la Quick-Step, Matej Moric pour la Bahrain Victorious, Taco Van Der Horn qui lui n'a pas de problème de batterie pour Intermarché Wanty et Quinn Simmons pour la Trek Segafredo. En fait, ce qu'on constate, c'est qu'on retrouve des garçons qui pour l'instant
toujours les mêmes, quoi.
Oui, et puis qui n'ont pas réussi à la mettre au fond et qui tentent, qui retentent, même si aujourd'hui on le sait, ça va pas être évident. Les équipes de sprinteurs roulent derrière pour Alpecin, pour la Bike Exchange, pour la Lotto, pour la DSM, pour la Total Energy et pourquoi pas pour la Jumbo, puisqu'ils n'en ont pas assez avec les maillots distinctifs, le jaune, le vert, le maillot à pois. Ils aimeraient bien une victoire d'étape avec Wout Van Aert.
RMC
Intégral Tour.
Et une nouvelle fois, on le voit aujourd'hui, Jérôme, hein, les garçons qui sont dans l'échappée sont des garçons qui se sont montrés quasiment depuis le début de ce Tour de France. Niels Polit, Honoré, Moric peut-être un peu moins que l'année dernière, mais il semble retrouver peut-être des jambes en cette fin de Tour de France, ou encore Van Der Horn et Quinn Simmons, hein, c'est des garçons dont on entend parler quasiment tous les jours.
Oui, c'est des habitués, des baroudeurs de renom. Aujourd'hui, il fallait quand même être motivé au départ pour se lancer dans cette échappée quand vous savez que les sprinteurs se sont accrochés sur les étapes de montagne. C'est sûr qu'ils n'allaient pas laisser filer celle-ci. Il leur reste deux chances, cette arrivée à Cahors, les Champs-Élysées dimanche pour essayer de gagner. On rappelle qu'il y a des sprinteurs qui n'ont pas gagné, notamment Caleb Ewan. On voit Philippe Gilbert, son coéquipier à l'avant. Les équipes qui n'ont pas gagné, elles n'ont plus que deux chances pour le faire avec leurs sprinteurs, donc elles ne peuvent pas se permettre de rater celle-ci.
Cyril, est-ce que les garçons qui sont à l'avant espèrent aussi aller décrocher, pourquoi pas, le titre de super combatif du Tour de France? On va peut-être en parler de ce super combatif, parce que pour l'instant, on ne sait pas trop qui va décrocher ce titre.
Tu sais pas si on sait, toi. La logique, c'est Van Aert.
Ouais.
La logique, c'est Van Aert.
Compliqué quand même.
Ouais. C'est quand même pas compliqué.
Ok, Van Aert.
Ou là, on aurait pu mettre Quinn Simmons aussi.
Quinn Simmons. On aurait pu mettre ami danois, malheureusement.
Qui est le plus jeune coureur du Tour de France et qu'on a vu au moins 5 ou 6 fois dans les échappées.
Donc tu mettrais qui, toi? Tu voterais pour qui si t'en avais
un? De toute façon, ce sera Van Aert, ne serait-ce que...
Qui a été combatif du jour hier.
Oui, et c'est la deuxième fois. Mm-hmm. La sixième étape, il était déjà combatif.
Oui,
mais enfin, il l'a été tous les jours.
Hein. Après, si on reste sur vraiment le terme de super combatif, oui, c'est Wout Van Aert. Après, on peut se dire, ok, il va monter sur le podium, il a le maillot vert, il a gagné. Est-ce qu'on ne va pas récompenser quelqu'un, peut-être un peu moins combatif, mais qui pourra monter sur le podium, comme le dit Cyril, peut-être Quinn Simmons. Mais le super combatif, ça doit être un des coureurs qu'on a le plus vu à l'avant et qui a le plus pesé sur la course. C'est difficile de ne pas mettre Wout Van Aert.
Qui a sauvé en plus son maillot jaune dans l'étape des Pyrénées. Enfin, il n'était pas encore en jaune, Vingegaard, qui a permis à d'autres de revenir dans le peloton, qui a attaqué tous les jours. C'est vrai que normalement, ça ne peut pas lui échapper.
Oui, mais être combatif, c'est aussi réussir à finir le tour. On pourrait récompenser un Fabio Jakobsen, par exemple, qui se sauve pour quelques secondes. Voilà, les critères sont variables finalement.
Ouais. Ouais,
et ajustable.
Après, un sprinteur, il travaille, enfin, c'est surtout ses équipiers qui travaillent tout au long de la journée. Et lui, il a un petit quart d'heure à faire.
Vas te fâcher avec Mark Cavendish, toi. Un jour, Mark Cavendish, je lui ai dit la même chose. Je dis, vous, ça va, votre boulot quand même. Vous gagnez 20 courses par an, vous sprintez pendant 300 mètres, vous avez quand même un beau boulot. Il m'a dit, détrompe-toi, Jérôme, nous, on est toujours à fond. Il dit, parce que vous, quand vous êtes devant, si toi, t'es dans le groupe et toi avec moi, toi, c'est tranquille, mais moi, je suis à bloc pour arriver dans les délais. Sur le plat, je roule à bloc comme toi. et je dois en plus faire les sprints. Il dit, en fait, c'est nous qui avons le métier le plus dur. Tu vas te fâcher avec Cavendish.
Oui, il faut mieux pas. Hein,
pas. Il est pas là, d'un autre côté, je peux dire ce que
oui,
je veux.
Oui, mais il peut revenir.
Il peut revenir l'année prochaine, effectivement. Oui, c'est vrai qu'on a vu. Finalement, les étapes les plus dures, ce ne sont pas celles qu'il remporte, les sprinteurs.
Non, non.
Ce sont les étapes où ils doivent s'accrocher pour essayer de
demander à Jacobsen pour l'arrivée à l'Altiport là-bas. Je peux vous dire, quand vous le voyez sprinter pour rentrer dans les délais pour 15 ou 17 secondes, celle-ci, elle était bien plus dure que l'étape qui gagne le deuxième jour au Danemark.
En tout cas, il s'est accroché, Jacobsen, et il est donc dans le coup pour aller, pourquoi pas, viser une seconde victoire d'étape, lui qui s'était imposé lors de la première étape. Nous étions il y a trois semaines au Danemark. 14h19 sur RMC, on va marquer une première pause, on va s'arrêter, prendre une petite musette, récupérer 2-3 bidons parce que ça va être long. Il fait encore à nouveau chaud aujourd'hui sur la route du Tour en direction de Cahors sur les terres du Sud-Ouest. On est parti des Hautes-Pyrénées, nous sommes dans le Gers, puis il y aura le Tarn-et-Garonne, le Lot, pour l'arrivée tout à l'heure à Cahors aux alentours de 17h30.
Et seulement 30 secondes entre les échappés et le peloton. Donc on va voir si devant ça se relève, parce qu'on peut très bien se dire voilà, ça ne sert à rien non plus de faire cet effort-là si c'est la défaite assurée.
Ok, allez, on revient dans un instant. Il est 14h20. Les tournesols sont présents aujourd'hui sur les routes du Sud-Ouest. À tout de suite.
Quand l'abus d'alcool. RMC Intégral Tour.
Christophe Cessieux.
14h22 sur RMC, l'intégral Tour de France, la 19e étape. Nous sommes à 48 heures de l'arrivée sur les Champs-Élysées pour la fin de ce Tour de France 2022 qui verra donc Jonas Vingegaard s'imposer. Il n'y a plus aucun doute. On pouvait espérer un peu de suspense avant l'étape d'hier. On pouvait se demander si Pogacar allait pouvoir reprendre quelques secondes à Vingegaard de manière à ce qu'il reste en ligne de mire pour le dernier contre-la-montre. Malheureusement, enfin pas malheureusement pour Vingegaard, mais malheureusement pour le suspense. Eh bien, il n'y en a plus, Jérôme. C'est terminé. Le tour est terminé pour le classement général final.
Oui, c'est terminé. Hier, Vingegaard a réenfoncé un petit peu le clou. Il a 3 minutes 26 d'avance sur Pogacar. Bien sûr que pour Tadej Pogacar, ça sera impossible de récupérer tout ça sur le chrono. Alors, on va réutiliser toujours la même formule. Il faut passer la ligne d'arrivée pour gagner le Tour de France. Vingegaard le dit lui-même. Je ne veux pas encore penser à la victoire finale. Il faut qu'il passe cette étape. Il faut qu'il fasse son chrono. Mais sans... chute, sans fait de course, etc. Vingegaard a gagné le Tour de France.
Et il y a d'ailleurs pas beaucoup de suspense sur la fin de ce Tour de France, parce que tous les maillots sont attribués. Il y a juste donc le super combatif. Mais on a vu que là aussi, c'était a priori destiné à Wout van Aert. Qu'est-ce qui nous reste à nous mettre sous la dent, finalement, Pierre-Yves ?
Des victoires d'étape.
Victoires d'étape.
Ce qui n'est
la première
rien.
La première victoire d'étape française, peut-être ?
La première victoire d'étape française.
Je pense qu'on peut l'attendre encore un peu.
On ne sait jamais. Il n'y a que 30 secondes là, d'avance pour les 5 hommes de tête sur le peloton. Donc, on va peut-être avoir une configuration un petit peu bizarre. Là, ils sont vraiment, vraiment... plus que tenu en laisse. C'est assez rare quand même d'avoir des échappés qui sont si proches alors qu'il reste 128 km à parcourir. D'habitude, on revient tranquillement sur eux. Donc ça pourrait provoquer quelques perturbations. Et puis on a quand même le top 10 qui peut encore bouger. On l'a dit hier, des garçons qui peuvent grignoter quelques places comme Vlasov a gagné 2 places dans le top 10 sur les 3 derniers jours. C'est pas mal quand même. Voilà, ça nous intéresse moins parce qu'ils sont pas français peut-être.
5, 6 7, 8, bon, on s'en fiche un peu, tout le monde les a oubliés malheureusement mardi ou mercredi. Hein.
Ouais, après, il ne faut pas une grosse défaillance non plus sur le chrono pour nos Français quand même, qui peuvent éventuellement, même s'ils ont un peu de marge, perdre des places. Ça devrait le faire sur 40 km quand même, quand vous avez 2 minutes d'avance. Mais bon, on ne sait jamais, il peut toujours se passer des choses. Là où on s'attendait à rien sur ce Tour de France, il s'est passé des choses et finalement, on a eu un Tour de France quand même très animé, avec des rebondissements, encore aujourd'hui, des gens qui arrêtent la course, ça aurait pu provoquer des choses. On le rappelle quand même, il y a eu des chutes provoquées la dernière fois qu'il y a eu cette interruption. Donc voilà, il faut être attentif jusqu'à la fin. Il faut couper la ligne pour être au bout du Tour de France.
Exactement, on va rappeler le classement général de ce Tour de France. Donc Jonas Vingegaard qui possède désormais 3 minutes 26 d'avance sur Tadej Pogacar, qui ne remportera donc pas un troisième Tour de France consécutif. On attend la revanche dès l'année prochaine. Geraint Thomas, lui aussi ancien vainqueur du Tour, c'était en 2018, est à 8 minutes derrière Vingegaard. David Gaudu, donc premier français, est pour l'instant classé 4e à 11 minutes 05 de Vingegaard. Suivent Quintana, Mentiès, Vlasov et Bardet qui est 8e, qui a encore perdu quelques petites places hier.
Il est à 16 minutes du maillot jaune. Voilà donc pour le classement général de ce Tour de France qui ne devrait que très peu changer demain, même si pour les peut-être dans le top 10. Peut-être Valentin Madouas qui peut récupérer, sait-on jamais, une place ou deux. Il est 12e pour l'instant, Valentin Madouas, après avoir réalisé. Non,
il est 11e aujourd'hui, puisque.
Oui, parce que. Henrik Maas, on ne l'a pas dit. Henrik Maas, effectivement, n'est pas parti ce matin. Il est positif au Covid. Donc, Valentin Madouas a déjà gagné une place. Bien joué pour le Breton.
Oui, après, il faut qu'il reprenne 13 minutes à Damietz demain au chrono.
Là, il faudrait vraiment une contre-performance à Damietz. Je pense que même s'il roule tranquille, Adam Yates sera devant Valentin Madouas. Il y a aussi un record à aller chercher. Ça peut être tout à l'heure à l'arrivée pour Wout van Aert, qui a pris 9 points tout à l'heure au sprint intermédiaire en passant à la 7e place, juste derrière Jesper Philipsen. Il pourrait avoir tout à l'heure, ici à l'arrivée à Cahors, le plus grand nombre de points jamais réalisés par un maillot vert sur un Tour de France.
Voilà, le grand bonhomme de ce Tour de France, Wout van Aert, qui hier a encore été impressionnant et qui suscite évidemment pas mal de commentaires un peu inquiets ou alors plutôt sarcastiques de la part de gens qui évidemment adorent taper sur le vélo comme ça à deux jours de l'arrivée. C'est la tradition, ça, on peut rien y faire.
Souvent, il y a des infos juste avant que le Tour parte.
Et juste après, souvent, c'est lundi ou le mardi qui se passe des choses. Donc on attendra de voir s'il se passe des choses lundi ou mardi. 14h27 sur RMC, on va faire la petite carte postale du jour avec le régional de l'étape, Arnaud Souk, qui est sur ses terres. Et la carte postale, c'est tout de suite.
RMC, la carte postale de l'intégral Tour.
Arnaud, de quoi parle-t-on ?
Alors je voulais vous parler d'un pont que vous n'avez peut-être pas vu là à Cahors où vous êtes. Le pont Valentré. Autrefois dans les campagnes carcinoises, lors de la veillée, les familles se regroupaient autour de la cheminée et écoutaient des histoires venues du fond des âges. Et l'une de ces légendes se raconte donc au travers d'un des sites les plus connus de la ville de Cahors. Notre arrivée du jour, un pont fortifié au-dessus de la rivière Lot, nommé pont Valentré, intact malgré ses 714 ans d'existence. Un pont médiéval au trois tours qui fut ouvert à la circulation d'ailleurs jusque dans les années 90. Il fut l'un des deux points d'entrée de la ville, même jusqu'au début du 20e siècle. Et en flânant sur sa chaussée pavée, il faut lever les yeux pour apercevoir sur la tour centrale une petite gargouille en forme de diable, symbole donc de la légende du pont. Cahors, juin 1308, les consuls de la ville décident de construire ce pont fortifié. À l'époque, le lieu dit s'appelle le Valandré, d'où le nom de pont Valentré. Il va servir normalement ce pont à protéger la ville d'éventuelles invasions. Un architecte est choisi, mais le chantier avance très lentement. Il mettra 70 ans en tout. Exaspéré par la lenteur des travaux d'ailleurs, le maître d'œuvre signe un pacte avec Satan. Et si ce dernier met tout son savoir-faire au service de la construction et exécute tous les ordres, eh bien l'architecte lui abandonnera alors son âme en guise de paiement. En revanche, si le démon n'arrivait pas à aller jusqu'au bout, eh bien il perdrait tous ses droits justement sur la prise de cette âme. Le chantier va tout d'un coup aller très vite, c'est la légende, et l'architecte joue alors un tour au malin en le convoquant et en lui ordonnant de remonter de l'eau au sommet de la tour centrale à l'aide d'un tamis dans le but de gâcher le mortier permettant de sceller la dernière pierre du pont. N'y parvenant pas malgré ses efforts, le diable ne peut donc tenir son engagement d'achever l'ouvrage. En conséquence, l'architecte sauve son âme et furieux, Satan revient chaque nuit arracher la dernière pierre du pont que les maçons ont mise en place. On voit donc sur le pont, sur la tour centrale, messieurs, vous irez vous balader ce soir, j'en suis sûr, une petite gargouille qui tente d'arracher la pierre de ce pont. Voilà la légende autour donc de ce petit diable.
Attention au diable quand même. On en a un paquet dans l'équipe des diables. Merci Arnaud pour ce moment de culture sur la route du Tour de France. C'est vrai qu'il connaît tellement bien ses terres aujourd'hui, Arnaud, qu'il peut nous raconter plein de choses. Tu vas d'ailleurs, tu interviens quand tu veux pour nous dire quand on passe sur des endroits sur des sites un peu. On a vu une casse de tracteur il y a quelques instants, hallucinante. Bon là c'est moins que culturel, mais c'était un endroit incroyable. Pierre-Yves,
une quoi tu dis?
Une casse de tracteur.
Ah oui,
il y en avait des milliers. Des vieux tracteurs qui étaient là, et on récupère les pièces évidemment pour essayer d'en reconstruire d'autres, Pierre-Yves.
Oui, exactement. Et il y a l'hôtel Le Relais là aussi que doit connaître Arnaud à Florence. Enfin, j'imagine, il connaît toutes les adresses. On vient de passer le peloton.
Bien sûr.
Juste à
bien
côté.
Et chez Dédé aussi, tu connais, non?
Non, c'est un bar. Non, et tout à l'heure, bien sûr.
Je peux vous parler de l'interlude, en revanche.
De la quoi ?
On est invité ce soir à l'interlude à Cahors.
Ah,
on est invité
bien,
à l'interlude
bien,
en fait. Ce soir à Cahors chez mon ami Jérémy. Voilà.
Formidable, formidable. Et l'entrée dans le Lot se fera par mon cul aussi tout à l'heure. Mon cul en Quercy blanc. Ça sera à 41 km de l'arrivée, mais il en reste encore 80. Hein. Et 11 secondes seulement d'avance pour les échappés qui ne s'entendent plus. Ils ne sont plus que 4 en tête. Michel Honoré essaye de rester à l'avant sur un rond-point ici à la sortie, donc on le disait, de Florence.
Oui, mais le peloton n'a pas intérêt finalement à récupérer ces garçons-là si tôt dans l'état, parce que ça va forcément repartir ou tenter de repartir, Jérôme.
Oui, bien sûr, ça va relancer. Et Michel Honoré, lui, il veut rester à l'avant pour éviter à ses coéquipiers d'assumer la poursuite derrière. S'il reste à l'avant, son équipe n'aura pas à travailler avec l'Autosoudal, avec Alpecin de Koenig, etc. Mais c'est vrai que quand vous avez que 15 secondes d'avance sur le peloton à 120 km de l'arrivée, on l'a dit, hein, c'est le peloton, il cale son allure sur les échappés. S'ils sont revenus, c'est pas que le peloton a accéléré, c'est que ses hommes de tête, ils ont ralenti. Et ils veulent montrer au peloton, ok, laissez-nous un petit peu plus de marge qu'une minute, une minute trente, oui. Il reste 120 km, lâchez un petit peu la laisse pour qu'on puisse faire quelques kilomètres à l'avant sans se mettre trop dans le rouge.
Après, c'est vraiment un jeu de dupes. Voilà, on connaît tous la règle et on a le sentiment que depuis 2-3 ans, les choses changent un peu. Il y a un peu moins ces grandes échappées. On n'en a pas vu beaucoup finalement cette année.
Non, on en a pas. Des échappées avec un très grand écart, tu veux dire.
Échappées publicitaires, voilà.
Oui, on en voit.
Pour aller chercher la victoire.
Oui, c'est ça. Les équipes sont de mieux en mieux organisées. Le niveau global du peloton est de plus en plus haut. Vous pouvez plus vous permettre de laisser 7-8 minutes à une échappée, même publicitaire, parce que justement, si elle joue un petit peu avec vous, tous les coureurs au départ du Tour de France ont un excellent niveau. S'ils jouent un petit peu avec vous, qu'ils sont pas complètement à bloc et qu'ils arrivent à réenclencher sur la fin de l'étape, vous pouvez vous faire piéger. Maintenant, les équipes, elles prennent plus de risques, encore moins aujourd'hui et encore moins sur un Tour de France quand il reste plus que deux étapes au sprint. Elles laissent très peu de champ aux échappées, comme ça, elles sont sûres de les rattraper avant le final.
Surtout que sur le Giro d'Italie, on a vu le peloton se faire piéger plusieurs fois, à plusieurs reprises. Donc voilà, il y a aussi cette expérience-là.
Est-ce que les échappés, Cyril, ont plus de chances d'aller au bout en fin de Tour de France, même si on rappelle que toutes les équipes de sprinteurs n'ont pas été servies sur ce tour. C'est le cas notamment de la formation Lotto de Caleb Ewan. Mais habituellement, c'est vrai que les échappés qui se font en troisième semaine arrivent plus souvent à décrocher le pompon que celle de la première semaine.
Oui, alors tout dépend de la configuration du Tour de France, des différentes étapes, à quel moment on va sortir de la montagne. Là, aujourd'hui, sortant de Hautacam, il reste trois étapes. Deux étapes pour les sprinters, dont certaines équipes n'ont pas mis au fond encore. Le classement général est fait, même si les coureurs sont loin, une chose est certaine, le contre-la-montre, n'en parlons pas, mais il reste deux étapes pour les sprinters, aucune chance qu'une échappée arrive au bout.
Ok, voilà, c'est définitif, au moins il n'y a pas matière à discuter, donc il y aura un sprint tout à l'heure, et il y aura un sprint dimanche. Dimanche, alors là, il y a eu évidemment des baroudeurs qui sont allés au bout, mais il n'y en a plus eu depuis un paquet de temps quand même.
Ça fait un moment, la dernière arrivée sur les Champs-Élysées. Ça commence à remonter, c'était...
Seigneur, non ?
On a eu Eddie Seigneur.
Alexandre Vinokourov.
Oui, on a eu depuis, ouais, parce que là on pense aux Français, mais il y a eu des étrangers. Mais c'est vrai que c'est quand même chose rare depuis que l'arrivée est sur les Champs-Élysées.
Ça peut arriver s'il pleut.
Oui.
Voilà, et puis s'il y a si le peloton aussi, même dans cette étape, est déstabilisé par une grosse chute collective à quelques kilomètres de l'arrivée, lorsque ça chasse derrière les échappés, mais il faut pour cela que les échappés quand même pas mal d'avance, ce qui n'est pas le cas en ce moment, même si là ça s'était réduit à 10 secondes et c'est reparti un tout petit peu, Arnaud, sur la moto RMC qui n'a pas pu encore se glisser derrière les échappés du jour, Arnaud.
Pas tout à fait, mais par contre j'ai une très bonne nouvelle pour vous, messieurs, puisqu'on arrive à Cahors aujourd'hui. Sachez que Cahors a été à trois reprises ville, étape du Tour de France, arrivée ou départ, et qu'à trois reprises, à chaque fois que Cahors était dans l'étape, c'était un Français qui s'était imposé. On avait eu Jackie Durand pour une arrivée en 1994, le lendemain c'était Luc Leblanc qui s'imposait à Hautacam au départ de Cahors, et puis il y a quelques années, Sandy Cazard avait également remporté une étape qui partait de Cahors, c'était en 2007, direction Angoulême. Alors je sais pas, peut-être que la ville va porter... bonheur aux Français.
On l'espère, mais on n'y croit plus vraiment. Hein. C'est ça le
vous
problème.
Vous n'y croyez pas trop. Ah,
on a du mal, on a du mal.
Je regardais donc sur les Champs-Élysées, il n'y a eu que 4 arrivées individuelles. Une pour Alain Mellet en 1977, et il me semble que c'est la première année où on arrive sur les Champs-Élysées. Bernard Hinault en 1979 devant Jobs Optomel, et puis Eddy Senior, on le disait, en 94, et donc Vino en 2005. Vino qui était dans la voiture d'ailleurs avant-hier pour donner quelques bidons à ses coureurs.
Et on parlera tout à l'heure de l'équipe Astana qui est un peu dans le trouble en ce moment avec l'un de ses coureurs qui n'est pas présent sur les routes du Tour de France. On vous donnera des infos tout à l'heure. Il s'agit de Miguel Angel Lopez, dit Superman, mais il est dans la super mouise en ce moment. Miguel Angel Lopez, 14h35 sur la route du Tour. On est encore à 120 km de l'arrivée. Ils sont donc 4, hein, Pierre-Yves. On fait un nouveau top course. 4 garçons dans le vent en direction de Cahors.
Mais ce ne sont pas ceux auxquels vous pensez. Il n'y a pas là les Beatles. Il y a Matej Moric, il y a Mikel Honoré, il y a Quinn Simmons et Taco Van der Horn qui sont à l'avant, puisque un garçon a décidé de se relever totalement. C'est Nils Polite qui était tout à l'heure en compagnie de ces quatre-là. Ils ont 23 secondes d'avance sur le peloton. Mais vraiment, le jeu du chat et de la souris aujourd'hui est surprenant, alors qu'on tente quelque chose à l'avant du peloton du côté de l'équipe BNB dans une petite montée. Ça va pas être très simple, mais là, Cyril Barthes essaye de rejoindre les quatre hommes de tête. Il n'y avait pas de Français devant. Il y en aura peut-être un dans quelques secondes. 19 secondes d'avance pour les quatre hommes de tête.
Est-ce que c'est
Intégral Tour.
Est-ce que c'est le bon moment, Cyril, pour tenter de s'extraire du peloton, d'aller rejoindre le groupe d'échappés?
Oh ben là, ça va pas être compliqué puisque l'échappé ne roule le moins vite possible et le peloton essaye de rouler moins vite que les échappés. Donc s'il met un petit coup de gaz, il devrait pas tarder à rentrer.
Ça peut nous faire une arrivée tard, hein, s'il décide de rouler tout doucement. C'est parti très vite pourtant.
Malheureusement, c'est la réalité.
Ouais, tu as raison de le signaler. Alors qu'un garçon est victime de problèmes mécaniques à l'arrière du peloton. Encore la formation IF, 119 km de l'arrivée, donc 4 hommes en tête et un Français qui tente d'aller rejoindre Cyril Barthes de la formation BNB Hotel. BNB dont on vous parlera avant la fin de ce Tour de France. Il y a peut-être des choses qui se mijotent. 14h37 sur la route du Tour, on revient dans un instant pour cette longue, très longue étape en direction de Cahors. A tout de suite.
RMC Intégral Tour.
Christophe Cessieux.
14h40 sur la route du Tour de France pour cette 19e étape. Nous sommes dans le sud-ouest du pays. Nous remontons. On a mis la flèche vers le nord, décidément, aujourd'hui, pour rallier Paris. Ce ne sera pas le cas demain, mais après-demain. Cette fois-ci, on a quitté définitivement les montagnes pyrénéennes, les montagnes des Alpes également. Et donc, direction le nord pour le peloton du Tour de France qui achèvera son édition 2022 dans 48 heures. Donc, à 116 km de l'arrivée de cette 19e étape, qui s'achèvera tout à l'heure à Cahors. La situation est assez claire depuis le début du Tour de France, avec quatre hommes qui sont pris en chasse par un garçon qui a du mal à rentrer sur eux quand même. Hein.
Oui.
C'est pas facile pour Cyril Barthes.
Et je suis pas sûr même qu'il y arrive, puisqu'il n'a plus que 9 secondes d'avance sur le peloton, qui est à 33 secondes des quatre hommes de tête, Taco Van der Horn, Quinn Simmons, Mikel Honoré et Matej Moric. Et j'ai bien peur que Cyril Barthes soit parti un peu trop en décalé. À un moment où il s'est dit, il n'y a pas beaucoup d'écart, ça ne roule plus, ils sont qu'à 10 secondes devant, mais juste à ce moment-là, ça a réenclenché entre les quatre hommes de tête et le peloton, lui, a décidé de revisser pour les garder vraiment sous la coupe. Et bien, il n'y a plus que 10 secondes, je pense qu'il va pouvoir se relever, Cyril Barthes, sinon l'effort va être un peu inutile. Hein.
Les autres coureurs français, Jérôme, ont eu raison de ne pas essayer de se mettre dans cette échappée, ils ont raison de rester comme ça, d'attendre peut-être la victoire au sprint tout à l'heure.
Bah, d'un point de vue sportif, oui. Puisque c'est certainement une arrivée au sprint qu'on va avoir. On a très peu de Français capables de gagner au sprint, mais on va citer quand même Laporte et Hofstetter par exemple. C'est peut-être nos deux meilleures cartes. Ou Benjamin Thomas s'il fait le coup du kilomètre. Si vous avez pas, si vous avez un sprinteur dans votre équipe ou si vous avez pas vraiment une bonne pointe de vitesse, ça sert un peu à rien d'aller devant. C'est un peu une échappée publicitaire, mais des fois sur une dernière étape, enfin sur les dernières étapes du Tour, on est toujours mieux à l'avant qu'anonyme dans le peloton. Pourquoi pas Cyril Barthes s'il avait pu rentrer, au moins il se serait fait plaisir à la l'avant une dernière fois.
Eh bien, ça sera difficilement le cas pour Cyril Barthes qui n'arrive pas à revenir sur les quatre hommes échappés.
C'est même relevé, je crois.
Ouais, je crois qu'il s'est relevé. Tu as raison de le signaler. Effectivement, il est rattrapé à l'instant même par la tête du peloton. Cyril, quels sont les coureurs français sur lesquels on pourrait miser une petite pièce aujourd'hui? On fera les paris tout à l'heure, mais donne-nous quatre ou cinq coureurs comme ça qui pourraient aller chercher la victoire d'étape. Pour l'instant, on est toujours Fanny, on le rappelle, et on se dirige vers un tour sans victoire française qui n'est pas arrivé depuis 1999. Voilà, donne-nous 3-4 espoirs, même si je sais que tu n'as pas beaucoup
d'espoir. C'est un ordre ?
Oui, c'est un ordre.
j'aime pas beaucoup les ordres.
Tu les donnes d'habitude.
D'habitude, je les donne. Non, honnêtement, aujourd'hui, par les noms que vous avez cités, ou des circonstances de course.
Mais on n'en a pas cité pour l'instant.
Si. Christophe Laporte.
Laporte,
d'accord. Et Thomas.
Voilà. Moi, je vous en rajoute un.
Jérémy Le Croix.
Non, Anthony Turgis.
Pourquoi pas?
Mais qui a passé vraiment un Tour de France dans le dur. Oui, mais ça peut être une double carte finalement possible.
Non, soyons logiques. Tel que la course se présente, quel est le Français qui peut aller gagner sur la ligne d'arrivée? Je suis quand même assez pessimiste.
Parce que si on regarde le profil de cette étape, on cherche éventuellement les difficultés pour sortir finalement avant l'arrivée. Il y a deux petites difficultés, la côte de la cité médiévale de Lozère et la côte de Saint-Donès qui sont à 52 km et à 35 km de l'arrivée. Elles sont classées en quatrième catégorie, deux montées de 1,6 km et 2 km à 6,3%. Ça permet pas de faire la différence.
Non. Puis bon, regardez comment le s'est organisé en tête de peloton. Vous avez pratiquement 5 ou 6 équipes qui roulent, y compris d'ailleurs Total Energy. Sur une arrivée comme ça, on peut jouer éventuellement la carte Peter Sagan.
Oui.
Donc déjà, même les équipes françaises, une équipe française, voire deux, parce que Cofidis peut être impliqué avec Hugo Hofstetter. C'est-à-dire que même les équipes françaises vont rouler pour essayer de placer leur coureur étranger qui peut aller gagner.
Donc pas d'espoir, en gros, pas beaucoup d'espoir.
L'espoir il peut toujours exister, et puis comme dit toujours Pilou, on ne sait jamais
l'espoir fait vivre,
on ne sait jamais. Mais moi qui suis très cartésien, très terre à terre, je peux pas vous dire qu'un Français a 10% de chance de l'emporter.
Christophe Laporte emmené par Wout van Aert pour service rendu à l'équipe,
Laporte sortant aux 200 mètres, il fait 6 ou 7. Hein. Voilà. Parce que quand les Philipsen, les Cadel Ewan, et puis le Groenewegen, quand ça va passer, il va se prendre une grippe. Hein.
Bon, c'est quand même dur le final.
Oui, franchement. Mais, les sprinters, sur une bosse comme ça, c'est là où ils sont le plus forts.
Messieurs, s'il n'y a pas de victoire française, est-ce qu'on pourra parler de crise du cyclisme français, sachant qu'on a David Gaudu qui termine 4e, Romain Bardet qui est pour l'instant placé à la 8e place? C'est pas arrivé quand même depuis 1999, c'est arrivé que deux fois dans l'histoire du Tour. A priori, lundi, ça va quand même faire beaucoup parler, cette histoire-là, Jérôme. Est-ce que toi, tu es sévère envers le cyclisme français? Je sais que tu vas défendre tes copains, mais bon...
Non, mais c'est difficile de parler de crise quand vous avez un Français qui est 4e du classement général du Tour. Le cyclisme français n'est pas en crise. On a David Gaudu qui est 4e. Bon, Romain Bardet qui est dans le top 10, même s'il vaut mieux que ça, il a eu une défaillance. Après, c'est vrai qu'au niveau des victoires d'étape, si on n'en gagne pas une, ça va quand même nous faire drôle. Alors, est-ce qu'on en a parlé, reparler, mais c'est sûr que même les équipes françaises, elles s'internationalisent, donc c'est plus difficile quand vous avez des équipes françaises à 8 coureurs au départ avec 4 étrangers. Ben voilà, même si c'est, on a vu avec l'équipe AG2R Citroën, même si c'est une équipe française qui gagne, c'est avec un coureur étranger. Voilà, il y a plus de coureurs étrangers aussi dans les équipes françaises, ça diminue la chance des Français. Parler de crise juste sur le Tour de France, en fait le Tour de France c'est un tel ça
mais
prend
c'est
tellement
une caisse
place
de résonance.
Il
voilà.
Y a des équipes elles font un très bon début de saison avant le Tour, une très belle fin de saison, mais elles ratent le Tour et on dit que leur saison est ratée. Mais le vélo, c'est pas que le Tour de France.
Tu penses à Cofidis, à Total Energy, par exemple.
Pour l'instant, ils ont fait un Tour correct. Ils ont pas fait un grand Tour, mais ils ont fait un bon début de saison. On peut pas arrêter la saison et tirer des conclusions sur des équipes juste au Tour de France.
Mais on sait que en matière économique, pour une équipe, le Tour de France,
c'est une équipe française,
primordial. C'est là que les sponsors viennent voir la course et attendent des résultats de leur coureur. Cyril, c'est important, même si évidemment il y a un bon début de saison, c'est bien de briller sur les épreuves françaises, c'est bien de briller aussi sur d'autres compétitions, mais le Tour de France c'est une obligation de résultat, surtout pour les équipes françaises.
Enfin, oui, obligation, puisque l'obligation,
évidemment, tu peux terminer
les derniers. L'exposition du Tour de France fait que le retour sur investissement, rien que sur le Tour de France, c'est plus de 70 voire 80% du retour sur investissement. Le reste de la saison, il vous reste 20%. Alors effectivement, si vous gagnez Paris-Roubaix, le Tour des Flandres, vous avez une belle exposition, mais même si on voit en France par exemple, même le Giron, on le voit pas à la télévision, même le Tour d'Espagne, on le voit pas à la télévision. Je parle télévision publique. Mais tout le monde n'est pas abonné pour même le Tour d'Italie d'ailleurs, vous pouvez pas le voir à la télévision. À part Eurosport, mais on a l'obligation d'avoir des résultats sur le Tour. Moi je sais qu'on a fait une saison absolument extraordinaire en 1980, mais Hinault abandonne le Tour. Ben pour tout le monde, on avait raté notre Tour. On a fini qu'à 3 d'ailleurs à Paris, alors que quand on regarde le palmarès de l'année, c'est absolument, absolument fabuleux. Mais on n'avait pas existé. Mais sur le Tour de France, on est obligé de... Et tu as raison, Christophe, on est obligé de poser la question, parce que je vais aller un petit peu plus loin. Combien de Français ont fait un podium sur une étape?
2.
Benjamin Thomas.
Thibaut Pinot.
Ben c'est tout. Mm-hmm. C'est tout, c'est-à-dire que même dans les 3 premiers, on n'a que 2 Français qui sont venus, peut-être deuxième ou troisième.
Est-ce que ça signifie qu'un garçon comme Julien Alaphilippe est une sorte d'arbre qui cache la forêt, Jérôme? Julien qui a brillé sur les routes du Tour l'année dernière, il y a 2 ans, tous les ans on l'attend, c'est lui qui fait le spectacle et qui en plus va décrocher des victoires d'étape. Son absence, elle est préjudiciable puisque cette année, sans Julien, personne n'a mis au fond.
Bien sûr, quand Julien est au départ du Tour, on est quasi assuré d'une victoire d'étape et suivant le profil du Tour du maillot jaune, il l'a fait plusieurs fois de suite. C'est peut-être bien l'arbre qui cache la forêt parce que il gagne une étape et puis après derrière on dit c'est bon, le Tour est sauvé pour les Français, on a déjà gagné une victoire d'étape.
Ça avait été le cas l'année dernière dès la deuxième étape puisque on était dans la première ou deuxième étape, je sais plus.
La première, il prend le maillot jaune tout de suite et après il le perd pour par rapport à Mathieu Van Der Poel. C'est sûr que Julien Alaphilippe, il est dans cette catégorie des top coureurs mondiaux qui arrivent à gagner une étape toutes les années sur le Tour, c'est quand même assez rare. Alors après, quand on joue le classement général comme David Gaudu, on sait qu'on a moins de liberté pour aller chercher des étapes. David, il avait les jambes pour gagner une étape sur ce tour-là, mais quand vous jouez le classement général, vous pouvez pas faire les deux à la fois forcément. Julien Alaphilippe, il nous a beaucoup manqué sur ce tour, ça c'est sûr.
Mm-hmm. Cyril, on rappelle aussi qu'on n'est pas la seule nation à être en déficit de victoire, puisque les grandes nations historiques du cyclisme mondial sont également à la peine, mis à part la Belgique, qui elle cartonne avec un Wout van Aert, avec aussi un Philipsen. En revanche, l'Espagne et l'Italie n'ont toujours pas remporté non plus la moindre victoire d'étape. On rappelle que l'histoire du cyclisme a été faite sur ces 4 nations auxquelles on peut rajouter les Pays-Bas, la Suisse, le Luxembourg. Mais voilà, ça, c'est les nations historiques du vélo.
Ils peuvent encore gagner demain, les Italiens, avec Ganna.
Ah oui, Filippo Ganna, effectivement, oui. sur le
Mais chrono. Ceci dit, ça ne change rien au problème de fond. L'Italie est au fond du trou, l'Espagne aussi.
Et d'ailleurs, tu nous mets au même niveau que l'Italie et l'Espagne?
Oui, on est au même niveau. Oui.
D'accord, donc on est au fond du trou.
Oui, si on veut, oui. D'ailleurs, mais prenez la crise, il y a une crise qui est beaucoup plus importante qu'en France pour les Italiens, c'est qu'ils n'ont même pas une équipe World Tour. Il n'y a pas d'équipe World Tour en Italie. Alors...
On est un peu mieux que les Espagnols et les Italiens quand même.
Oui, au niveau des équipes, oui. Puisque l'Espagne, ils ont une équipe au niveau du World Tour. Nous, on en a 3.
Même au niveau des résultats, on a plus de victoires d'étape.
Il reste Valverde qui va s'en aller. Donc après, derrière...
On rappelle, ils sont à plus de 100 étapes de Tour, de Grand Tour, sans victoire, les Espagnols.
On a 3 Français dans le top 11 sur ce Tour-là. Oui, parce que là, le premier Espagnol, il est 16e. Le premier Italien, j'ai même pas regardé.
Non, regarde pas, ça va te faire mal au cœur.
Ouais, il est 32e, c'est Velasco. Non, on est quand même pas.
À Velasco, on a souvent parlé de lui quand même pendant ce tour.
Oui, Simone.
Et, ouais. Mais on est quand même mieux que l'Italie et l'Espagne.
Oui, on est mieux que l'Italie et l'Espagne, et y compris, je le disais, et c'est important parce que c'est quand même ce qui permettra à ces pays de repartir, c'est d'avoir des équipes. Mais comme les équipes italiennes sont devenues l'équipe Bahreïn et sont devenues l'équipe UAE, parce que si on fait le transfert, c'est quand même des équipes qui sont parties d'Italie pour aller dans les pays arabes. Ils en ont quand même quelques-unes, mais bon. Bref, Alaphilippe, pour revenir à lui, puisque c'était la question. Oui, Alaphilippe, c'est l'arbre qui cache la forêt.
L'âge d'or du cyclisme européen.
Et quelque part, c'est quand même bien qu'il ne soit pas sur ce tour, pas pour les raisons que l'on connaît, mais le fait qu'il ne soit pas là devient un révélateur de notre cyclisme.
Du niveau.
Ouais. Oui, parce que justement, quand Alaphilippe décrochait la première étape, c'était la première étape l'an dernier, la fosse au loup, et s'emparer du maillot jaune, même si ça n'a duré qu'une journée, ben voilà, le tour était sauvé dès la première journée. Alors cette année.
Oui, encore que la deuxième étape a été gagnée par un demi-français.
Oui. Bah oui.
Et qui a porté le maillot jaune durant une grosse semaine.
Donc l'an dernier, on a eu un demi.
Ça partait bien. On avait déjà un et demi au bout de deux jours.
C'est un peu comme en Formule 1, on s'attribue les victoires de Charles Leclerc. Voilà, c'est pareil. On s'attribue les victoires de Mathieu.
Ouais, bon,
on n'a pas d'autres binationaux qui ont brillé.
Non, mais on attend Sivakov.
Bien sûr.
Voilà, on a des garçons qui sont devenus français et qui pourraient avoir de bons résultats.
On aura un demi russe.
Sivakov, oui, effectivement, qui a pris la nationalité française, qui avait hésité, qui a été élevé en France, hein, qui est évidemment d'origine russe, mais qui a connu la France.
Tu vas nous dire qu'il est niçois bientôt, je le sens.
Il est pas loin. Il est azuréen, russo-azuréen. Voilà, un drôle de pays. Allez, on va repartir sur la moto. L'écart est monté un tout petit peu tout de même. Pierre-Yves, on va d'abord faire un petit peu d'écart entre les quatre hommes et donc la tête de peloton. J'ai du mal.
C'est compliqué là, hein. Il fait chaud, c'est pas facile, hein. C'est la fin de tour, troisième semaine.
Non, mais c'est le foie gras, ça à dire.
C'est ça, le foie gras.
Bien digéré, impeccable.
107 km encore à parcourir. 58 secondes d'avance pour les hommes de tête où il n'y a plus Nils Polite. Lui, il s'est fait avoir quand même parce qu'il était devant tout à l'heure. Ça s'est relevé, il s'est dit, oh bah, c'est pas la bonne, je me relève, j'en ai marre. Eh bien, si finalement, ils sont restés à 4, Maurits, Honoré, Simons et Van der Horn. Quinn Simons, champion du monde junior en 2019. En 1979, le champion du monde junior s'appelait Greg LeMond.
Très bien, il y a un garçon qui est à l'arrière du peloton. Il a encore les poids sur le dos et pourtant il ne les a plus. Simon Geschke qui a perdu son maillot à poids rouge de meilleur grimpeur. Mais comme il est deuxième au classement et que Vingegaard, qui est pour l'instant le leader de ce classement, est en jaune, eh bien c'est Geschke qui les a. Ça doit être terrible d'avoir les poids rouges alors qu'il ne les amènera
par
pas demain sur les Champs-Élysées.
Ouais, c'est dur.
C'est un peu tristonné. On va retrouver Arnaud sur la moto RMC qui, je crois, est en approche de notre Dédé national. Tu as retrouvé Dédé sur la route parce que nous, ça fait 4-5 jours qu'on essaye de l'appeler, mais il ne répond pas. Je ne sais pas
s'il avait abandonné, moi.
Hommage. Oui, je pense qu'il avait bâché, moi. Il est là à côté de toi ou non?
Je vous confirme, ça a été très très compliqué, mais vous pouvez le lancer le jingle parce que je l'ai retrouvé.
Alors, il est où? Tu l'as trouvé où, ce Dédé?
Mais alors, il va nous dire. Salut Dédé, comment ça va?
Bah, ça va très bien. C'est nouveauté maintenant, c'est les petites haltes bord de route, beaucoup plus pratiques que cette fameuse 4G qui maintenant a disparu de la route du Tour depuis maintenant 3 étapes.
Oui, parce que hier, il y avait zéro réseau entre le départ et l'arrivée. Hein.
Non, c'est ça, zéro réseau. Alors on cherche un spot et puis on le trouve pas. On m'appelle, on me dit tu veux passer à l'antenne bientôt? Oui, bah non en fait, parce que je n'ai pas de réseau. Et puis je vois passer des tas de gens que je connais qui me disent t'as du réseau? Bah non, toujours pas.
Bon là t'as bien choisi ton lieu pour t'arrêter. T'es dans un champ de tournesol. Qu'est-ce que tu fais là?
Voiture jaune, tournesol jaune. Je pense qu'on est totalement raccord. Juste après la zone de ravitaillement des coureurs, donc de quoi récupérer une musette avec éventuellement 2-3 petites friandises à grignoter. Mais enfin ça vaut pas le foie gras quand même.
Tu vas pas les trouver dans les pailles de foin là quand même?
Non, mais les bottes de paille, ça j'en veux plus, c'est beaucoup trop gros pour moi, faut les emballer tout ça. Mais c'est bien, les gens sont cool ici, c'est bien, et puis c'est le pays du canard sous toutes ses formes, donc voilà, on en profite un peu quand même.
Bon, faut pas trop en parler d'ailleurs du canard en ce moment, parce qu'il y a eu des petits soucis de stockage, hein. Tu sais, avec la grippe aviaire et tout, il y a eu des petites histoires. T'as vu la route là? Est-ce que tu peux nous parler de cette route? On est vraiment dans de la route de campagne typique du sud-ouest là quand même aujourd'hui. Hein.
Oui, c'est typiquement de la route qui est c'est plutôt des enduits, donc ce sont ces routes qui sont susceptibles de bouger et de se transformer et de de fondre, comme on dit souvent. Là, par les températures qu'on a aujourd'hui, il n'y a aucun risque, on est vraiment tranquille. Il y a un petit vent, donc le sol est aux alentours de 40-45 degrés. On l'a mesuré tout à l'heure, donc il n'y a aucun risque particulier de subir ces fameux reçuages qui envoient parfois des coureurs au tapis et qui génèrent quelques polémiques sur les dizaines de milliers de litres d'eau qui en fait ne sont que quelques centaines de litres que l'on peut mettre sur la route quand on en a besoin et pas plus.
Bon, mais merci Dédé, en tout cas, merci d'avoir été avec nous.
Eh bien écoutez, je suis ravi, hein, la prochaine fois que tu t'arrêtes, tu me fais signe.
Eh bien avec plaisir. Voilà messieurs, je vous rends la main.
Bah, parfait, il avait la bouche pleine quand même Dédé, je pense qu'il bien mangé encore.
Ça s'entend,
ça s'entend. Ouais, ça s'entend bien, ça s'entend bien. Ouais.
Après il va chanter du Johnny, c'est qu'on me donne l'enduit.
L'enduit d'avoir, enduit.
Vous voulez que je vous enchante
du Johnny. Ah bah, il est super bon pour Johnny.
Vas-y Dédé, un petit Johnny.
Ouais. Il suffira d'une étincelle, d'un rien, de quelques mots d'amour pour allumer le feu.
Voilà, vous l'avez.
Il est magique notre Dédé. Tu l'embrasses sur le front de notre part. Il est en pleine forme.
Gros bisous Dédé.
En pleine forme avec un S. 14h57, on se retrouve dans quelques instants, juste après les infos de 15h pour la suite de cette longue étape. Ouah, il reste encore 103 km à parcourir. L'avance désormais 1 minute 04 pour les 4 hommes de tête. À tout de suite.
RMC Intégral Tour.